Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel et la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir. C'est crier ses larmes qui les faisaient tant.
Dans Culture Passion aujourd'hui, eh bien, je vais recevoir un écrivain qui a été journaliste, réalisatrice, que nous avons eu l'occasion de voir il n'y a pas très longtemps dans le cadre des 20 ans de l'UTL, puisque c'était pour la présentation de son dernier ouvrage. Alors il s'agit de Bernadette Pécassou. Alors bonjour Bernadette Pécassou.
Bonjour Eliane.
Alors, nous allons faire un petit peu différemment de la présentation du livre, puisque je crois que les auditeurs aimeraient peut-être savoir certaines choses sur la manière dont votre carrière littéraire a débuté, puisque vous avez écrit avant, puisque vous étiez journaliste de presse écrite, donc localement, puisque c'était La République et La Dépêche. Et ensuite, vous avez migré un petit peu à Toulouse et après, vous êtes monté à Paris.
Tout à fait. Vous voulez que je précise peut-être?
Oui, voilà.
Oui, en fait, si vous voulez, moi j'ai démarré. Moi, j'avais un paradis, en fait, c'est ici. Et donc, je ne comptais pas le quitter. J'aimais beaucoup le journalisme. Ce n'était pas les grandes figures du journalisme qui m'avaient impressionné. C'était tout bêtement Tintin. Parce que Tintin, c'était joyeux, il allait partout avec son petit chien, il faisait tous les pays, c'était trop bien. Je me disais, oh, mais c'est bien, journaliste. Donc, et c'est vrai, ce que je vous dis là, c'est pas pour faire genre, c'est parce que c'est la vérité. C'est-à-dire, il fallait, cette gaieté me plaisait, ces voyages, c'est magnifique, Tintin. Donc, j'ai voulu faire journaliste, et j'ai fait ma licence, mon certificat de maîtrise, et j'ai démarré comme correctrice, c'est-à-dire quand même l'échelon le plus bas, à la Nouvelle République des Pyrénées, où il y avait surtout des hommes, d'ailleurs. C'est la seule femme en tant que journaliste écrite. Et donc j'ai couvert effectivement le parvis beaucoup, parce que la culture c'est pour les femmes, tout le monde le sait. Donc ça m'allait très bien. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion, parce que le journaliste qui travaillait ici pour Radio France arrêtait et partait à la retraite. Il m'a demandé si je voulais prendre le relais. Et moi, comme j'avais qu'une obsession, c'est faire du cinéma, être réalisatrice, je me suis dit, tiens, oui, parce que c'est quand même, tout d'un coup, on passe à l'audio. Donc j'ai dit oui, je suis passée donc correspondante de Radio France, Occitanie. Hein. Et donc je devais aller beaucoup à Toulouse, et donc j'ai été à Toulouse, parce qu'il fallait rendre la copie, comme on dit. Hein. On l'envoyait, mais on y allait régulièrement. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a fallu un correspondant France 3, télévision. J'étais sur place, on m'a proposé le poste, je savais filmer, j'ai pris la caméra et j'ai filmé, je suis devenue correspondante. Là, du coup, j'ai arrêté presse écrite, radio, c'était quand même un travail important. Et donc j'étais régulièrement à Toulouse. Et c'est à ce moment-là, c'est là, dans tout parcours, il y a un destin, c'est là que Henri Sagnier, qui était à Caen, a monté le 19-20. Le principe était le suivant: on prend des journalistes en région et on crée un journal national avec des journalistes de région. Il m'avait noté dans ses tablettes, parce que quand vous êtes journaliste pigiste à France 3, ce que j'étais donc à l'époque, hein, j'étais à France 3 Toulouse pigiste, on vous fait tourner dans les régions. Vous êtes dans un planning, moi j'étais Marseille, Lyon, Rouen, enfin, et j'étais passé à Caen. Et donc, il m'a sollicité, en tant que sur Toulouse. Il a sollicité Sophie Bontemps, il y avait Élise Lucet, donc de Caen, j'ai fait partie de cette équipe. C'est comme ça que je suis montée au National. Et ensuite, Duhamel a monté la 5. Pour vous dire le parcours, hein, pour vous donner la transmission, si vous voulez, d'un endroit à l'autre. Pourquoi Duhamel m'a appelé ? Parce que moi, j'avais toujours ce rêve de cinéma. Et à France 3, j'avais dit à Sani, ok, moi, je veux bien le reportage, mais je vais plutôt faire coordinateur international. Donc, j'ai fait coordinateur international de la chaîne, qui est un travail très particulier, très intéressant, d'ailleurs passionnant, parce que je restais à demeure, c'est-à-dire à Paris. Et donc, moi, j'avais toujours en tête de faire du cinéma. Et je me disais, je vais pouvoir faire des scénarios. Je me suis vite aperçu que c'était un travail qui prenait beaucoup trop de temps et que je n'ai pas pu faire de scénario. Et c'est pour ce poste très particulier, il n'y avait que 3 chaînes à l'époque, hein, la 1, la 2, la 3. Il y avait 2 coordinateurs par chaîne, ça en fait 6. Des journalistes, il y en a beaucoup, mais les coordinateurs internationaux, non. Puis c'est une compétence très particulière quand même. Donc Duhamel m'a fait appeler, m'a demandé si je voulais venir sur la 5. Je lui ai dit... D'accord, mais je vous forme quelqu'un en un an et je reprends le reportage. C'est comme ça que je suis arrivée sur la 5. J'étais journaliste au service économie avec Jean-Marc Sylvestre qui était le grand chef du service. Il était au Figaro, à Inter, enfin, il était partout, Jean-Marc. Et donc j'étais avec Jean-Paul Chapelle qui maintenant officie sur la 2. Et donc on était tous les 3 service éco. Et quand la 5, alors ça c'est le 20h là, hein, journaliste d'actu sur le 20h, et je faisais en plus la culture, parce que Duhamel trouvait que je faisais ça bien. Et j'avais des connaissances. Pourquoi ? C'est là le destin qui est intéressant, parce que moi, quand j'ai débuté à la République des Pyrénées, il y avait le Parvis. Et c'est toujours moi qu'on envoyait. Et j'ai vu tout ce qui se faisait de mieux dans ces années-là. C'est-à-dire tout ce qui se faisait de mieux au national et à l'international. C'est ça qui est fabuleux. Donc voilà, en raccourci, brièvement raconté, un parcours dans sa logique et dans la logique d'une culture familiale où mon grand-père disait « Le champ se laboure sillon après sillon. J'ai raté aucune étape. »
Et alors après, il y a eu aussi une rencontre déterminante hein, puisque il y a eu donc Arte avec des documentaires et... Malourde qui a été un succès colossal et c'est là qu'un directeur littéraire vous a demandé d'écrire un livre sur Lourdes.
C'est ça, Eliane. Là aussi, c'est la logique et la chance d'un destin qu'on saisit ou pas, parce que quand je vous racontais qu'on est venu me chercher pour faire pour le 19-20, le journal qu'a saigné, si vous voulez, il a demandé à beaucoup. Hein. Enfin, il n'y avait pas que moi, il y en avait plein. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Vous voyez ? Donc parfois, il faut saisir...
Oser.
C'est ça, il faut oser. Comme quand filmer. Moi, j'avais jamais filmé. J'ai dit oui, je sais filmer. Parce que je voulais faire du cinéma, parce que j'avais déjà quand même travaillé la question. Hein. Je ne partais pas à blanc. Et puis après, quand on est motivé, on y arrive. Ce qui s'est passé, c'est que quand la 5 s'est arrêtée, 5R101, moi, j'ai été recrutée par Patrice Duhamel à la rédaction et Patrick de Carolis qui faisait le reportage. Donc, j'ai travaillé avec eux. Quand la 5 s'arrête, je devais partir avec Jean-Marc Sylvestre sur TF1 Service Éco. Et je n'ai pas voulu. J'ai eu envie de mener mon propre chemin. J'avais suffisamment d'années d'expérience pour défendre, faire des sujets qui me plaisaient, et pas du 30 secondes journal ou une minute, vous voyez, dans le 20h. Donc j'ai décidé de démarrer fort. J'ai proposé à Jérôme Clément et à la chaîne Arte, qui ont souri quand je leur ai dit Lourdes, parce que ça faisait sourire Lourdes quand même, Bernadette, Lourdes, vous imaginez tous les sourires que j'ai eu, mais bon, pas de problème, j'étais tranquille, je savais pourquoi je voulais le faire, c'est un très grand sujet Lourdes, très grand sujet. Et donc j'ai fait Lourdes, et je l'ai traité, non pas sous son aspect religieux, parce que là on n'avait pas besoin de moi, mais sous son aspect économique. Et il ne fallait pas avoir fait l'ENA pour découvrir en travaillant, j'insiste, pas en étant dans la caricature, qu'il y a une grande logique économique dans le succès de Lourdes. Lourdes est arrivée un moment après le choléra de 56, 2 ans après, en 58. Il y avait une misère noire, les gens avaient crevé de faim, il y avait vraiment une grande misère, comme on n'imagine pas. C'était Zola, hein, c'est l'époque, hein, c'est Zola, Lourdes. Hein, pas que pour faire des livres, mais c'est la réalité de Lourdes. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, et petit à petit, j'ai mis à jour une chose assez simple qui s'est détachée, c'est que c'est les femmes, j'avais toujours affaire à des femmes. Je devais poser des questions, j'allais au sanctuaire, qui fait quoi ? Ben, vous avez sœur machin, vous avez... C'était elle, si vous voulez, qui tenait les manettes. Pas qui vous reçoive en tant que journaliste, mais qui fait le boulot. Voilà, c'est la question, pour simplifier. Qui fait le travail? Pas qui en parle. Qui fait le travail? Des femmes, tout le temps. Et Lourdes, il fallait faire trois choses. Consoler, faire des lits, faire à manger, à l'époque. Hein. Les gens qui venaient, parce qu'il y avait une misère noire, donc il y avait, dès qu'il y avait un petit événement comme ça, il y avait... Les gens se disaient, mais quand même, il va se passer quelque chose, on va en sortir de cette misère. Et comme la réalité ne venait pas à leur secours, eh bien, on se tourne vers le ciel, dans ces moments-là. Donc il y avait une aspiration spirituelle très, très grande, et cette aspiration a été surtout menée par les femmes, avec une grande force, ce qui m'a surpris, et une grande efficacité. Elles ne se sont pas contentées de faire la prière, elles ont monté les premiers chalets, été chercher les hommes qui étaient au café parce qu'ils avaient fini de bâtir ces merveilleux hôtels qu'on voit dans les Pyrénées, qui n'étaient pas faits pour les gens de chez nous, hein. Hôtel Second Empire, genre boulevard Haussmann, c'est pas fait pour mon grand-père, ni mon arrière-grand-père. C'était fait pour les sociétés élitistes de l'époque qui avaient beaucoup d'argent. Ils avaient fini de bâtir tout ça, Napoléon III, et ils étaient au chômage dans les cafés. Elles te les ont sortis des cafés et elles leur ont fait construire de briques et de brocs pour accueillir tous ces gens, ce qu'on a appelé les chalets. C'est pour ça qu'on parle de chalets à Lourdes. Moi, je ne comprenais pas, j'entendais toujours dire qu'il y a les chalets de Lourdes. Ben, quoi, les chalets, c'est dans les Alpes, vous voyez. Mais c'est parce qu'au début, c'est fait avec du bois, de briques et de brocs. Et elles ont mené les affaires, tenu les affaires et accueilli les gens. Faire manger, faire des lits, écouter le malheur, c'était trois actes typiquement féminins. Elles se sont engouffrées dans une économie qu'elles ont menée à son plus haut sommet quand même, hein. Bonjour, la ville qui est construite quand même, sur leur énergie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose que j'ai mis à jour, simplement, parce que je ne tenais pas à faire de grandes démonstrations, simplement en s'en tenant aux faits, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est construit? Pas les hommes qui ont dit « Ah mais on va faire ceci, cela », non, eux, ils bataillaient autour de la théologie, enfin tout ce que vous voulez.
On faisait le monde, hein.
Ils refaisaient le monde au café, comme d'hab. Je le dis gentiment, hein, mais enfin, comme d'hab.
Et on le voit d'ailleurs dans la belle chocolatière, qui a obtenu d'ailleurs le prix du roman populaire en 2001.
Oui.
On voit tout ce travail, toute cette sororité, parce que c'est le mot, je crois, qui est à la mode maintenant, mais qui convient.
Oui, mais qui est très juste.
Et on voit surtout comment, au début, bon, il y avait des questions sur la foi. Est-ce qu'elle a vraiment vu quelque chose ou pas? Mais toutes ces femmes l'ont encadrée, l'ont accompagnée, et c'est ce qui a déclenché après cette arrivée massive de gens qui venaient chercher quelque chose, et donc c'est devenu la deuxième plus grande ville hôtelière de France.
Ce qui a été très joli dans cette histoire, que je raconte dans le livre, mais que je souligne à chaque fois que je peux, c'est la grande solidarité des femmes, toutes classes sociales confondues. Les bourgeoises comme les femmes du peuple. Vous comprenez, les bourgeoises, une fois qu'elles avaient fait le thé, tous les jours, on fait le thé, au bout d'un moment, on en a marre, on tourne au bout. Enfin, il se passait quelque chose. Enfin, il y avait des foules, enfin, ça bougeait, chouette. Et elles se sont retroussées les manches. Et elles y sont toujours, d'ailleurs. Il y a toujours des sociétés de femmes qui viennent de milieux sociaux très aisés et qui viennent faire du bénévolat à Lourdes, comme dans les classes populaires.
Pour accompagner les malades, oui.
Pour accompagner les malades. Oui. Donc, tout ça qui a longtemps prêté à sourire ne devrait pas prêter à sourire. Est-ce qu'on a ri des enfants des favelas de Rio qui allaient chercher à manger dans les bidonvilles? Jamais. C'était quoi, Bernadette? C'était une petite fille dans la misère, comme il y en avait, parce que l'économie des moulins marchait mal, et elle allait dans les bouts du Gave chercher les eaux pourries des bêtes mortes.
Pour l'encre.
Ça, alors, c'est un truc que j'ai découvert, qui avait été dit, mais caché, parce que ça faisait pas joli. On a préféré mettre en avant des petites fleurs et les moutons. Bernadette, qu'est-ce qu'elle allait faire à la grotte? Les enfants qui étaient dans une misère noire, hein, parlent de Zola, la misère noire. Ils allaient chercher le gave qui descendait charriait toutes les bêtes mortes que les bergers, à l'époque, on ne se souciait pas de problèmes médicaux, on te jetait tout ça au gave. Et donc, tout venait s'échouer dans cette partie. Ils allaient ramasser les os, O-S, les os des bêtes. Et j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai trouvé, en fait. Ils les revendaient à la chiffonnière qui s'appelait Lechina, parce qu'on en faisait... En le faisant griller, si vous voulez, c'était gras, on en faisait de l'ancrage pour l'imprimerie. Et ça servait aussi après, ça je l'ai appris plus tard, ça servait à la pharmacopée. Ça je ne le savais pas. Donc voilà, est-ce qu'on rit? C'est la même chose que les gamins des Fats de Vila de Rio qui vont chercher de quoi manger. Ils vont chercher de quoi survivre. Dans un endroit où il n'y a que de la boue et des bêtes mortes. Donc voyez comment il faut recadrer le paysage. Et ça, c'est ça l'économie. C'est-à-dire, mon métier de journaliste m'a beaucoup servi à ne pas avoir de jugement. Bon, je ne sais pas si elle est tombée, la Sainte Vierge, ou pas. Vous voyez, si j'essaie de démontrer ça ou si je vais sur ce terrain-là, c'est un terrain personnel, ça, après, la spiritualité.
Si les gens y trouvent quelque chose, c'est ça qui est essentiel.
Mais ils y trouvent. La preuve, excusez-moi, moi j'y vais depuis toute petite, Lourdes. Moi, je n'allais pas à l'opéra, mais je dis toujours, Lourdes, c'est l'opéra que j'ai jamais eu. C'est-à-dire, il y avait des chants extraordinaires, ces lumières, c'était magique, ces petites lumières qui descendaient de partout, qui bougeaient. Moi, je trouvais ça génial. C'est génial. Mais si vous voyez tout avec un œil moqueur, je dois dire que les copains journalistes d'Arte ont été, après, ils ont été, ils ont dit, ah ouais, quand même, bon, vous voyez. Voilà, parce qu'il y avait un vrai travail derrière, qui était cohérent, solide.
Et justement, parce que chaque livre demande beaucoup de recherche, puisque c'est quand même très documenté, enfin, les livres qui ont suivi aussi, et... Bon, là, celui que vous venez d'écrire maintenant, donc c'est le 12e, je crois.
Oui, le 13e, parce que je fais un livre d'enfant aussi. Puis il y a la bio.
Oui, donc oui, c'est mais ça. Chaque fois, il y a c'est à peu ça. Près 2 ans entre chaque parution. Oui. Hein, donc c'est le temps nécessaire pour les recherches et l'écriture. Alors, comment choisissez-vous la thématique, enfin le thème du futur ouvrage?
Alors, si ça ne vous ennuie pas, juste je veux préciser pour les 2 ans, parce qu'on pourrait penser, j'écoutais tout à l'heure, non, c'est quand même une interview de Jean-Paul Dubois qui disait qu'il le faisait en 30 jours. C'est pas le même type de travail, mais ce que je veux dire, c'est 30. Je dis, oh là là, ça serait sympa si je le faisais en 30 jours. Pourquoi je mets 2 ans? D'abord, parce qu'entre, il y a aussi la promo du livre. Je ne fais pas écrire, je ne sais pas, vous comprenez. Il y a la promo des anciens livres, les déplacements, etc. Et surtout les recherches. Et moi, je change de domaine à chaque fois pour répondre à votre question, Eliane. Lourdes, ben, ça me paraissait évident. Je m'appelle Bernadette. Je devais quelque chose à cette ville qui a été très moquée, très bêtement, de façon stupide, qui l'est moins maintenant, d'ailleurs. Pour les autres sujets, je me suis... Vous savez, ça fait quand même... J'ai démarré dans le journalisme en 78. On finit par avoir un certain acquis. On bouge beaucoup. Quand on est en télé, au national, en radio, on bouge, on voit des gens, on a des... Et moi, ici, j'avais la chance d'avoir un père, Denis Pécassou, qui a lancé, monté, créé la STIA, les champs du pays, qui avait une culture générale très solide sur la Bigorre et sur les Pyrénées. Particulièrement sur la Bigorre, d'ailleurs, je dois dire. Vous étiez un acharné de la Bigorre. Donc j'ai toujours entendu, pour répondre à votre question, Eliane, par exemple sur les marbres, j'ai toujours entendu dire ah, les marbres de Campan, magnifiques, qui est à Versailles, etc. Par exemple, je vous donne cet exemple-là. Donc pour les marbres, c'est ça qui marche. Je me suis dit, tiens, mais oui, il est à Versailles, enfin, comme plein de marbres. Sauf que j'ai bossé. C'est ça qui fait la différence. Comme pour Lourdes. Si je m'en tenais quand on me disait « Mais tu devrais lire tout ce qui est paru. » Non. Tu devrais lire Zola. Non, ça ne m'intéresse pas. Zola, il a fait Zola. Moi, c'est moi. En plus, les femmes, on a intérêt à ne pas trop s'imbiber de ce qu'ils ont fait, parce que sinon, on va répéter ce qu'ils ont fait. Et on n'aura pas de point de vue open bar, comme je dis. We'll be right back.
Mais il y a cette thématique qui est, je veux dire, récurrente, sauf peut-être dans le dernier livre, où les hommes sont un peu plus mis en lumière, hein, puisque c'est un travail quand même très rude. Mais par exemple, dans Le Bel Italien, qui est une suite logique de la Belle Chocolatière, hein, puisque c'est Lourdes des années après, donc on voit déjà tout ce qui s'est passé avec les grands hôtels, enfin... Voilà. Mais il y a aussi d'autres livres sur Lourdes, parce que par exemple, l'hôtelière du Gallia Londres, c'est aussi Lourdes.
Oui, grand sujet, Lourdes, vous comprenez. Moi, j'ai eu du mal à m'en. Là, c'est l'hôtellerie que je mets en lumière.
Et alors, après, par exemple, il y a l'art aussi des femmes dans l'art, avec l'impératrice des roses. Ouais. Et là, on y parle aussi alors, de l'addiction au jeu, comme dans le dernier livre. Et de l'hôtel Frascati.
Cet hôtel Frascati.
De Bagnères.
C'est ça. Moi, je suis, en travaillant, parce que c'est quand même le maître mot, hein. Attention, il faut une discipline quand on fait ça, pour ne pas replonger dans les clichés et découvrir des choses. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que ça prend du temps, mon travail. C'est-à-dire, Frascati, personne ne m'en a parlé. C'est en travaillant que tout d'un coup, que j'ai découvert petit à petit et j'ai fouillé, qu'il y avait au cœur de Bagnères un hôtel absolument, un très bel hôtel. C'est comme le sont parfois ces hôtels un peu mystérieux, vous savez qu'on dit, waouh, je ne sais pas si vous êtes allé à Biarritz quand vous étiez jeune, mais l'hôtel du Palais.
L'hôtel du Palais, oui.
On se dit, oh là là, ça doit être super d'y aller. Enfin, vous voyez, ça fait un peu rêver. Et le Frascati était un hôtel très particulier, très beau, hein, pour Bagnères, puisqu'il y avait une grande société aussi, ce que les gens de chez nous ne savent pas toujours. Une grande société intellectuelle, Montaigne venait à Bagnères prendre les eaux. Donc il y avait une élite intellectuelle et sociale qui venait à Bagnères et qui avait marqué de son empreinte l'hôtellerie, l'accueil, etc. Dont le Frascati, parce qu'il fallait bien, une fois que vous aviez pris les eaux, il fallait faire quelque chose. Bon, alors on allait au square, on allait au jardin public, il y avait des chants, des réunions, et il y avait le jeu au Frascati.
Et le Frascati était... les balles aussi.
Les bals, c'était merveilleux. Il y avait une société où les gens vivaient en communauté, en commun, je dirais. Et au Frascati, il y avait le jeu. Donc ça faisait partie de ces hôtels. C'est une plaque tournante, on jouait au poker et ils venaient d'Espagne. C'était vraiment un endroit très connu, hein, pour ça. Donc il y avait toujours ce côté un peu sulfureux du Frascati. Et quand j'ai présenté le livre sur... L'impératrice des roses, qui a existé, hein, l'impératrice des roses. Et il y a des dames qui sont venues, vous savez comme le sont ces dames d'un certain âge très soignées, se faire signer le livre, elles avaient des pendientes, comme on dit, vous savez, les chignons bien tirés, cette espèce d'allure un peu héraldique, j'aime bien, un peu particulière quand même, qui m'évoque l'Espagne tout de suite à moi, et que j'aime. Et elles sont venues me remercier beaucoup, alors, mais je me demande des pourquoi. Vous avez mis à l'honneur l'hôtel de leurs ancêtres, hein, qui était 19e. C'était deux générations, c'est pas si loin. Hein, c'est pas si loin. Et qui a disparu, puisque ça a été vendu, c'est devenu. On a fait, il y a des médecins qui ont acheté une partie, après un restaurant. Bon. Mais toute cette partie était un ensemble très particulier dans lequel la vie à Bagnères, à l'époque, on parlait du Frascati à mon couvert, quoi.
Et alors après, il y avait aussi le Pays Basque, alors avec la Villa Belza, mais il y a aussi, alors c'est l'avant-dernier livre, hein, pourquoi avoir traité de la sorcellerie avec le bûcher des certitudes.
Alors là, ça vient pas de mon père, vous voyez. D'ailleurs, le reste non plus. Le reste vient de culture personnelle et de centres d'intérêt successifs. L'art, c'est parce que j'aime beaucoup ça. Peut-être le domaine que je connais le mieux, c'est l'art. Et j'ai fait d'ailleurs des interviews au National, j'ai eu la chance de très grands artistes des années 70, 80. Pour ce qui concerne les sorcières, je vais être très cash, en fait, il y a un livre qui a beaucoup marqué d'une fille que je connais, qui est journaliste, qui s'appelle Mona Chollet, qui est rédacteur en chef du Monde Diplomatique, qui est très sympa, une fille très bien, très discrète, on ne la voit jamais, hein, mais qui fait un travail que j'aime beaucoup. Et elle a sorti un livre qui a fait un carton, qui s'appelle « Sorcières ». C'était... Bon, comme c'était elle qui l'avait écrit, je l'ai lu et j'ai été très marquée par la grande logique de ce livre, la grande force, la grande culture, intelligence et surtout quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'était une vision féminine. Les hommes n'auraient pas pu faire ce livre parce qu'ils se seraient tout de suite attaqués à l'aspect politique de la chose. Elles se sont attaquées à l'esprit humain. Inspirées des féministes américaines aussi, des grands courants des féministes américaines. Donc il y avait une vision à laquelle moi je ne m'étais jamais attardée. Je me suis dit, mais c'est quand même très vrai tout ça. Et ces fameuses sorcières, c'était tout simplement, elles étaient comme par hasard toujours vieilles, toujours les vieilles ou les moches, on les brûlait quoi. Ou trop belles aussi, quand on ne pouvait pas les avoir, ah ben c'est une sorcière. Pam. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose, là c'était un peu pour moi, je savais, j'avais entendu dire qu'il y avait des sorcières au pays, la sorcellerie au Pays Basque, c'était quelque chose de fort. J'en avais toujours entendu parler. Mais je n'y étais jamais, m'étais jamais attardée. Et donc là aussi j'ai travaillé, j'étais à Zugarramurdi, j'étais côté basque-espagnol, j'étais en France, j'ai lu tous les théoriciens de l'époque, j'ai fait des recherches et j'ai sorti le bûcher des certitudes. Vous voyez, la langue est très différente, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est mon époque qui me parle avec une fille très cultivée, Mona Chollet, qui est vraiment un livre super qui s'appelle Sorcière, mais elle parlait de sorcellerie en Europe. Et en fait, j'ai découvert que cette chasse aux sorcières de Pierre de Lancre, qui était le beau mec bordelais, fils de grande famille bordelaise, qui avait fait ses humanités, qui était allé en Italie, qui connaissait les Médicis, enfin le branché de l'époque, avait été le pire, comment dire, je trouve pas le mot
inquisiteur.
Il y avait de ça, c'était pas inquisiteur, lui c'était, lui, il, on va dire inquisiteur, comme ça on se comprendra, parce que l'inquisition c'était côté espagnol, mais nous on a été terribles, hein. Bien pire que les espagnols, hein. J'ai découvert après que les espagnols c'était quand même beaucoup plus mesuré, et ils avaient essayé d'arrêter cette chasse aux sorcières qui a lancé l'Europe, c'est la chasse aux sorcières du Pays Basque qui a mis à feu et à sang l'Europe entière. Pierre de Lancre, on dit c'était un fou, pas du tout. C'était quelqu'un qui était sûr de ce qu'il disait. Il était certain qu'il y avait le diable et Dieu, lui. On y croyait beaucoup, aujourd'hui on a oublié, mais moi j'ai lu les livres de l'époque, certains étaient ardus, mais on y croyait dur comme fer. Donc lui, il chassait le diable, hein. Il était dans sa vérité. C'était pas... Donc dans sa vérité, le diable, on le tue là où il est, et il le voyait partout, forcément, surtout chez les femmes. Il devait y avoir un peu, peut-être, de perversion en lui. Mais avant tout, il faisait son travail. Henri IV lui a confié une mission, il l'exécute au-delà de toute espérance. Je ne vous dis pas, Henri IV a flippé quand même quand il a vu ça. Il s'est dit, il va me mettre à feu et à sang la frontière espagnole. Déjà que j'ai des problèmes avec Isabelle la catholique, ça va faire la pagaille. Mais il n'a pas pu l'arrêter à temps. 4 mois. 4 mois d'un massacre invraisemblable, 80 femmes brûlées. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Ça fait... des bûchers. Donc là, il y avait, là, c'est un peu mon côté journaliste qui reprenait le dessus, mais ça se passait quand même chez moi. C'est chez moi aussi le Pays Basque. J'ai de la famille là-bas. Mes neveux, ma fille, ma sœur, vous voyez, c'est chez nous, hein, le Pays Basque. Mais je ne suis pas basque, comme on le dit des fois, et je dis non, non, je suis bigourdane, mais bon.
Alors après, bon, il y a eu aussi la passagère du France.
Oui,
donc
Eliane.
Ça, c'est autre chose, donc ça c'est autre chose aussi.
Oui, mais ça, vous voulez savoir pourquoi je l'ai fait ?
Oui.
Parce que j'aime beaucoup ce pays de France. Et on a créé de grandes richesses, si vous voulez, et notamment des richesses technologiques, je pense. Il y a 2 choses que j'ai adorées, le France et le Concorde, forcément. Quel bateau, le France ! Magnifique ! Et le Concorde, quel avion ! Donc c'est notre côté un peu too much. On n'est pas très doué pour la rentabilité, par contre on est très doué pour la beauté des choses. Quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc le France était quand même un bateau splendide. Et j'ai appris là aussi. C'est pour ça que je mets du temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais chaque fois sur des terrains nouveaux. Je travaille beaucoup. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant le France ? Une chose que je n'avais jamais envisagée. Le France... ça a été le dernier liner. Pourquoi ? Un liner, c'est pas un bateau de croisière. Un liner, c'est un bateau qui était chargé d'amener les hommes d'affaires pour business. Il allait à Southampton et il repartait sur New York. Donc c'était une ligne. liner, un liner. Il faisait ça en permanence, comme le bus qui va de Bagnères à Tarbes. Parce que lui, il allait jusqu'à New York en passant par Southampton. Donc, c'était un bateau d'affaires. Quelle était la priorité d'un bateau d'affaires? Il fallait aller vite, c'est les affaires. Donc, on venait de découvrir qu'on pouvait construire des bateaux en France, technologie, en enlevant le rivetage. Le rivetage, c'est comme, vous connaissez Tintin et Milou, quand vous regardez le Caraboudjan, il y a toujours des grosses bosses, c'est les rivets. Hein, parce qu'on visse pour souder les plaques. Là, on les colle. On les colle entre elles. On les soude. Je dis colle, mais on les soude. Ce qui a pour effet d'alléger la coque du bateau. Comme on allège la coque du bateau, on peut la faire étroite. Comprenez? Et donc, le bateau, le France, a été le premier liner construit de cette façon-là. Et il a été le dernier. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas que des jolies phrases, qu'il est unique au monde. Le France, tous les grands marins, capitaines de grands navires vous disent « Ah, mais le France, le France ». Pourquoi il n'y en a eu qu'un? Parce qu'au moment où on le mettait en route, arrivait l'avion, la caravelle, la première. Les hommes d'affaires ont pris la caravelle. Et donc, le France s'est trouvé obsolète au moment où il arrivait sur les eaux. Mais il avait l'étrave la plus étroite qui soit. Donc, il était comme une lame. Hein. Ce n'était pas un mot, c'était la réalité. La houle, il ne la prenait pas, puisqu'il n'était pas lourd. Il traçait à travers les vagues. Et après, on n'a plus fait de France, on a fait des bateaux. On a réélargi les bateaux pour y mettre du monde. Et c'est devenu les bateaux de croisière jusqu'à l'affolement des bateaux que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est la technologie qui a fait bouger les choses. C'est pour ça que le France est unique. J'aime bien l'expliquer, parce que ce qui est intéressant dans le travail que je fais, Eliane, et c'est pour ça que je le fais avec passion, c'est que chaque fois, je découvre des trucs et que j'adore, c'est trop bien de le savoir. Moi, je ne le savais pas, ça. On dit toujours le France, c'est un beau bateau, ça, oui, mais il y a des raisons pour lesquelles on le dit. Vous voyez, des raisons.
Et le lecteur les découvre en même temps aussi, parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. Aussi.
Voilà, parce que comme moi, quand je les découvre, je ne les savais pas. Les femmes à Lourdes, ça, les femmes qui ont fait des tableaux extraordinaires et qui sont dans les sous-sols, notamment tous les tableaux de fleurs, la grande explosion du tableau floral qu'on a mis dans les sous-sols des musées, hein. Alors que quand Monet fait ses deux fleurs, on les met en orsay, on en fait tout un plat, excusez-moi, on peut sortir des caves les merveilleux tableaux, on l'a fait d'ailleurs pour une, que les femmes avaient fait. C'était faux de dire qu'il n'y avait pas de femmes artistes, il y en avait.
Oui, mais à ce moment-là, elles n'ont pas été reconnues en tant qu'artistes, il n'y avait que les hommes.
Elles n'avaient pas les réseaux. C'est très important, c'est-à-dire les hommes avaient les clubs, les femmes étaient dedans, dans l'intime, elles se voyaient, bon, les bourgeoises autour du thé, mais les autres, elles n'allaient pas au café. Moi, j'ai jamais vu ma maman aller au café. Hein. Ma maman, elle n'allait pas au café, ni elle était à la maison, elle tenait ça de main de maître, d'ailleurs, mais elle n'avait pas... Papa, il sortait, il avait sa estéade, ils allaient au café, alors pas pour boire, hein, c'est pas ça, mais ils avaient des lieux de réunion, il allait au rugby... Maman, elle ne jouait pas au basket, elle était de la génération où les femmes... Donc, vous voyez, il y avait, pour les femmes artistes, il n'y avait pas les relais, elles ne se voyaient pas.
Oui, donc c'était une autre époque. Et alors, je voulais qu'on parle quand même d'un roman, c'est le seul roman qui se passe en extérieur, hein, c'est sur le toit du monde, donc qui a été aussi déclenché par un événement.
Oui, tout à fait. C'est sous le toit du monde, d'ailleurs.
Sous le toit du monde.
Exprès, parce que sur le toit du monde,
c'est...
On sait ce qui s'y passe, mais on ne parle jamais de ce qu'il y a dessous. Ouais. Oui, j'étais à la rédaction, ce qu'on appelle dans mon métier la newsroom. Hein. On était tous ensemble, alors ça part dans tous les sens. C'est dans une newsroom, chacun crie, appelle, enfin, c'est un bazar terrible. On est habitué après. On travaille dans un boucan absolument infernal. Quand j'y pense, je me dis, c'est dingue. Et on se concentre, hein, on est tellement habitué. Puis tout d'un coup, tombe sur les téléviseurs, on a les téléviseurs partout, hein, avec les news, les agences qui envoient des images, etc. Tout d'un coup, on entend, parce qu'on écoute quand même, hein, tout en travaillant, on a une espèce d'oreille, on entend, le roi du Népal s'est fait assassiner avec toute sa famille dans le jardin d'été. Il prenait le thé. Ils ont eu la tête, tous les quatre ont eu la tête coupée. Oh, On se serait cru dans les contes et légendes anciens où les gens se trucidaient au poignard. On est quand même à l'époque, pour bien vous rappeler, où les services secrets, on voit quelqu'un, boum boum, même pas besoin de sortir la Kalachnikov, hein, on sort un revolver et Anna Politkovskaya a bénéficié, je dirais. Donc c'est le même moment. Toute la rédaction stupéfaite. Que le roi du Népal s'est fait assassiner. C'était quand même des phrases, vous voyez. On entendait, le roi du Népal s'est fait assassiner. Tout le monde dresse l'oreille. C'est un roi. On ne savait même pas qu'il y avait un roi au Népal. Service politique, le Népal, ça ne les intéresse pas. Hein. Et donc, c'est ça qui m'a... Ce qui m'a alerté, c'est le crime en tant que tel. On ne les a pas tués à l'arme. On les a tués à l'arme blanche. Et on les a décapités. On leur a tranché la gorge. La jeune princesse. Dans le... Puis je voyais le truc dans le salon d'été. Vous voyez ce que je dis ? Prenez le thé. Ils sont tous passés. Le petit prince, la princesse, la reine et le roi. Je me serais cru dans les contes et légendes que je lisais. Ça m'avait terriblement marqué. C'était un autre temps, quoi. Quelques temps après, pas si longtemps, j'entends une journaliste, Uma Singh, s'est faite assassiner. Pareil, c'est Vincent Brossel, un copain, un reporter que je connais, qui était à l'AFP, qui avait envoyé la dépêche. Elle s'était faite assassiner à l'arme blanche, pareil, par 15 hommes dans sa chambre. 15 hommes, c'est une équipe de rugby. Oui. C'était très précis, parce qu'il faut bien savoir que ce n'est pas comme chez nous. À la limite, chez nous, ils se seraient cachés. Non, pas là-bas. C'est très rituel, c'est-à-dire il y avait des raisons pour lesquelles ils allaient la tuer. Des raisons qui nous... On va dire, ils sont horrifiantes pour nous, mais pas pour eux. Pas dans leur logique économique. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Uma Singh, mais elle est très particulière. En gros, si vous voulez... Dès qu'un pays veut s'occidentaliser, il prend nos modes de vie. Or, ils ne sont pas toujours adaptés. Faire d'une jeune fille qui vient du fin fond du Népal une journaliste, qu'est-ce que vous voulez qu'elle raconte ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'Alliance française, tout ça, on les éduque, etc. Et puis, c'était une fille de la bourgeoisie népalaise, hein, les Néwars, qui a voulu, elle aussi, lancer sur le terrain des jeunes femmes dans le journalisme. Déjà qu'il y en a à peine un homme. Vous voyez un peu. Et cette jeune fille, Uma Singh, elle remettait en cause, poussée, hein, c'est pas elle, ça lui était pas venu comme ça l'idée, la succession par l'homme. Déjà qu'ils ont presque rien, si en plus tout d'un coup les filles se mettent à vouloir récupérer une part du patrimoine, ça remettait en cause tout un système. Vous voyez, je raconte ça vite fait, c'est très subtil tout ça, c'est très... On ne peut pas calquer ce que nous sommes sur un autre pays qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc les hommes avaient leur raison, ils avaient peur. À juste titre, parce qu'effectivement, les patrimoines là-bas, déjà que ce n'est pas très grand. Mais bon, on ne peut pas faire évoluer les pays de la même façon, au même rythme. Donc voilà pourquoi je suis partie au Népal, sur les traces d'Uma Singh, en me faisant passer, je ris, pour la randonneuse que je ne suis pas du tout. Mais alors pas du tout, au moment de la moindre colline, déjà je dis oui, demain. C'est pas du tout mon truc. Très mauvais pour une pyrénéenne, hein, je sais, mais bon, c'est pas mon truc. Et donc, et alors, on se surprend, hein. Eliane, on se surprend. Donc je l'ai fait, mais je suis partie là-bas en tant que, comme si j'allais faire un trek. J'ai surtout pas dit que j'étais journaliste, parce qu'il y en a eu des journalistes assassinés là-bas, hein, des Occidentaux. J'ai pas tenu à faire partie du lot, quand même. Donc c'était un travail très touchant qui m'a rapproché de mes Pyrénées parce que quand j'ai vu ces petits paysans népalais, parce que nous quand on nous parle du Népal, on nous parle toujours des enfants souriants ou des gens qui montent les sommets. Il y a beaucoup à dire là-dessus aussi d'ailleurs. Mais en fait, quand vous allez là-bas, j'ai eu l'impression moi d'arriver dans des temps très anciens que je n'ai pas connus. Du temps de mes arrière-arrière-grands-parents qui s'asseyaient ensemble dans les champs pour ramasser les pommes de terre. Il y a des petites loupiottes à la veillée, il n'y a pas l'électricité partout. Hein. Enfin, quand j'y étais, c'était 2011. Hein. C'était il y a un moment quand même. Mais bon, il y avait des loupiottes dans ces petites maisons pleines de suie, tout ça. Vous voyez. J'étais très touchée quand il y a eu le tremblement de terre. parce que le patrimoine bâti du Népal est sublimissime. C'est tout en bois, c'est dans la pénombre. Ils mettent des petites lumières partout. Ils ont des petits hôtels partout, partout. C'est très touchant, vous voyez. Et au milieu, il y a les trekkers, les gens qui font les randonnées, et c'est un autre monde. Mais ça me rapprochait des miens. C'est un souvenir très poignant, parce que j'ai l'impression de voir les miens avant. Et je n'avais jamais entendu parler du Népal comme ça. On montre toujours les enfants souriants, ou les alpinistes qui montent les sommets. Là aussi, j'ai fait des découvertes pas terribles.
Alors après, il y a eu une seule biographie. Pourquoi avez-vous choisi Geneviève de Gaulle, bon, qui a été bien sûr une grande résistante et un grand personnage aussi à l'origine d'ADT Cartmonde. Mais, et d'ailleurs, je crois que ça a été un coup de cœur lorsqu'elle a été panthéonisée, votre biographie.
Oui, je vais vous raconter. Après, parce qu'elle a été panthéonisée, oui, avant oui. Que je fasse la biographie. Oui. C'est le directeur de Calman Levy, j'ai été très flattée avec Caroline Lépé, un jour ils m'ont appelée, qui m'ont choisi pour faire cette biographie. Donc ils m'ont appelée, ils m'ont demandé si je voulais bien la faire. J'étais très surprise, pourquoi moi? J'avais jamais fait de bio. En gros, si vous voulez, ils faisaient confiance à ma capacité de travailler, et donc de ne pas sortir toujours les mêmes choses, capacité de travailler, et à l'aspect romanesque. C'est-à-dire, je savais... De leur point de vue, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai posé la question, pourquoi il y a des historiens, il y en a qui en ont fait d'ailleurs. Pourquoi me confier ça? C'est parce qu'en fait, ils voulaient aussi quelque chose qui soit lisible, grand public, et qui soit traduit de façon vivante, et non pas seulement historique. Platement, voyez, vous voulez un truc vivant. Voilà, donc c'est eux qui sont venus me chercher. Je vous avouerai que De Gaulle... C'était pas rien pour moi, ce nom. Moi, j'aurais pas de moi-même proposé. Parce que je dis pas, tiens, je vais faire la bio de Geneviève de Gaulle. Je sais pas. Dans ma famille, on ne disait pas j'écris non plus, si vous voulez. Il y a des choses qui étaient un peu, alors, employant de grands mots, pas sacrées, mais qui étaient quand même. Vous voyez, famille de Gaulle, c'est pas rien. Il y a tout un imaginaire dans la France. C'était un sacré nom, hein. Je me suis mise au travail, j'ai beaucoup travaillé avec sa fille, un de ses fils. Et puis l'environnement politique de l'époque, hein, parce qu'ils sont encore là, hein. Ils sont vieux, mais ils sont encore là. J'étais très touchée d'ailleurs, parce que quand j'ai fini, le livre les a enthousiasmés, et ils m'ont fait une grande soirée à la Fondation de Gaulle, hein, qui est là où il y avait, comment ça s'appelait, à Solferino, là-bas. Vraiment, c'était super, dans la merveilleuse fondation à côté de la Seine, et la salle était pleine. Et alors je souriais parce que je voyais tous ces hommes, tous ces gaullistes de l'époque, ils étaient là, quoi, les anciens ministres, les trucs, ils avaient eu les livres à l'avance un peu, ils avaient beaucoup aimé le livre, et donc ils sont tous venus, c'était plein, c'était très touchant pour moi, et ça a été un travail passionnant. Là aussi, comme d'hab, on découvre quoi ? On découvre qu'il y a des gens, en l'occurrence Geneviève de Gaulle, qui a quand même un parcours remarquable. Petite dame effacée parce qu'elle n'a pas un physique de je ne sais pas quoi. Petite dame effacée parce qu'elle était effacée de nature dans son éducation, alors qu'elle a fait un boulot d'enfer. Ce qu'elle a fait, je tombais des nues, moi. Franchement, bon, je ne vais pas le redire là, mais dans mon livre, je le dis, tout ce qu'elle a soulevé, parce qu'elle n'a pas fait qu'ADT Cartmonde et tout ça, elle s'est occupée des scientifiques, mais elle n'avait jamais de rôle de premier rôle, si vous voulez. Notamment, elle travaillait, c'était Malraux qui lui demandait de faire des trucs. Ben oui, mais elle les faisait, elle avait quand même 3 enfants. Et tenez-vous bien, il vivait avec la belle-mère dans un petit 2 pièces boulevard Raspail, à 7. Elle n'a pas demandé qu'on lui donne ceci, cela. Hein. Après, elle a eu l'observatoire, un appartement très grand à l'observatoire, parce qu'un copain qui était ministre avait fait l'échange. Bon, enfin, c'est des gens dont on ne connaît pas, on ne mesure pas à quel point ils ont été remarquables.
Et alors, dans le dernier livre, donc c'est un autre monde, et ça, moi, personnellement, ça m'a fait découvrir le milieu du marbre et le marbre, que je ne voyais pas de cette manière.
Et comment vous le voyez, Eliane ?
Eh bien, je ne croyais pas qu'il y avait autant... Bon, je savais qu'il y avait des couleurs différentes, mais en tout cas, j'ai vu que c'était quelque chose de très vivant, qu'il y avait une manière particulière de le travailler, que ce n'était pas simplement une manière brutale. Il fallait vraiment avoir l'instinct pour trouver les bons blocs, les bons morceaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a eu un impact sur toute la région de Bagnères, les alentours. Enfin, je veux dire, ça a eu un impact. C'était le marbre roi, donc qui a eu un impact sur la vie de toutes les familles aux alentours aussi.
Mais oui. Et alors, on connaît la laine à Bagnères, hein, les filatures, tout ça, mais le marbre, on n'a pas idée de ce que ça a été. Ça a été grandiose. Parce qu'aussi, ils ont importé après, donc c'est devenu du gros business. Ils auraient fait qu'avec le marbre de chez nous, on n'aurait peut-être pas pu atteindre ces chiffres. Après, ils ont importé des plaques, etc. Mais les marbres de chez nous, j'ai découvert, sont parmi, si ce n'est, les plus beaux du monde. Pour des raisons géologiques. Là aussi, c'est très intéressant. C'est ce que m'amène à mon travail, Eliane. Je suis obligée de travailler. Et je change de... Je dis toujours, je pense à des gens qui travaillent toujours sur les mêmes périodes. Moi, je change. Un coup, c'est l'art, un coup, c'est les avions, un coup, c'est le bateau, après, c'est le Népal, etc. Donc, chaque fois, je suis obligée d'aller à la mine chercher l'info, quoi. Et du coup, je la découvre émerveillée, parce que c'est magique d'apprendre tout ce que j'ai appris sur les marbres. C'est magique. Et j'espère être arrivée à le transmettre.
C'est un monde extraordinaire. En plus, bon, bien sûr, on parle de Versailles, de l'anecdote concernant les blocs que voulait la grande Catherine de Russie,
qui ont bloqué le port de Bordeaux. Ça aussi, un truc de dingue quand même. On se dit, mais c'est pas possible que ça arrive. Mais si, les trucs les plus nuls arrivent. Et on se dit, mais comment le port de Bordeaux, qui est quand même un sacré port, on n'est pas l'épicerie du coin, hein. Bloqué pendant plus d'un siècle, parce que les trafiquants, quand ils se faisaient prendre, parce qu'ils volaient du marbre, il fallait quand même y aller, ils y arrivaient, hein, ils le jetaient dans le port, au dernier moment. Au bout d'un moment, le port est bouché. Et donc, ils s'envasent, et les bateaux ne peuvent plus arriver pour prendre les marchandises et les déposer. Un truc d'enfer. Moi, ça me fait... J'en ris, parce que c'est vraiment le côté embrouille, hein, qui n'en finit pas. Alors, ils dévasent, ils arrivent à les sortir au bout d'un siècle, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent sur les quais sans réfléchir. Sur le quai, ben, ça bloque toutes les cargaisons. Donc c'est les quais qui sont encombrés. Puis des blocs de marbre, vous ne les prenez pas à deux. Hein. Il faut des machines. Les machines, on les a eues après la Seconde Guerre mondiale, pas avant. Les grues, tout ça, c'est venu de la guerre. Hein. Avant, on ne les avait pas.
Et alors, donc, ce travail d'écriture, bon, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, après recherche aussi. Alors, certains écrivains aiment bien écrire en écoutant de la musique, ça les inspire. Comment écrivez-vous ?
Alors, jamais en musique, hein, parce que je me suis concentrée. J'écris laborieusement, très laborieusement. Je me mets à ma table de travail en tournicotant, voir si je peux pas. Ah, je dois aller dehors. Ah, on m'appelle. Ah, très bien, oui. Enfin, tout est bon pour lever le pied. Franchement, mais je ne suis pas la seule, parce qu'on se le dit entre nous. Moi, j'ai un copain, Antoine Lorrain, qui est aussi un écrivain parisien, un de mes meilleurs amis. On s'appelle. Où tu en es ? Tu as fait combien aujourd'hui ? Oh, j'ai fait 10 lignes. Oh, j'en ai fait 4. Ouais, parce que moi, je ne sais pas comment ils font quand ils font un livre en 30 jours. Mais ce n'est pas le même genre de livre. C'est-à-dire, moi, je suis... Quelle est la contrainte de mon travail ? Pour bien faire comprendre. Parce que sinon, on dit, elle met 2 ans. Oui, parce que... Pourquoi ? D'abord parce que je m'attaque à des sujets qui sont blancs. Je ne vais pas copier le bouquin d'un autre. Hein. Ça n'existait pas, le truc sur les marbres. J'étais me le chercher à la mine, c'est vraiment le mot, chez les historiens et les géologues. allez lire des livres de géologue, de géologie. Vous arrachez les cheveux. Et puis, il faut faire le lien entre l'historique, la géologie. Ça, c'est moi qui le fais. Et c'est moi qui dois dégager la clarté de tout ça, la simplifier, et mettre des personnages qui ont une vie, une maison, des enfants, les années, l'historique. Tout ça doit devenir limpide. Je vous jure, c'est un travail de titan.
Parce qu'il y a une...
Il n'y en a plus beaucoup qui le font, hein, c'est d'ailleurs les livres historiques avec romancé comme ça, parce que c'est très dur.
Oui, parce que quand on lit vos livres, c'est vrai qu'il y a une richesse dans le descriptif incroyable. Je veux dire, on pourrait presque voir l'image, la scène, c'est très très précis, vraiment.
Je filme, Eliane, vous avez raison, j'ai toujours voulu faire des films. Donc je filme. Si je mets des décors, quand j'ai fait le France, vous savez que ma grande fierté, puisqu'on parle... j'ai plaisir à le dire d'ailleurs, mon livre au musée du France à Saint-Nazaire, quand vous sortez du musée, vous avez la librairie comme toujours, mais il y a mon livre devant. Ils l'adorent, il est d'une grande précision, ils m'ont félicité, pareil, ils m'ont invité, c'est le livre référence du roman. Après il y a des livres photos, il y en a eu beaucoup, mais des romans, c'est la difficulté, le roman d'Anton. Comment vous dire ? Le roman qui traite de la réalité et qui mélange l'historique et le romanesque. C'est très dur, je vous assure, parce que c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Il y avait avant, il y en a qui en faisaient, je ne sais plus quels étaient leurs noms, mais il y en a eu. Mais il faut être très studieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très studieux. Et donc, ce livre, il est donc à la librairie du musée de Saint-Nazaire. J'ai l'autre, celui de l'impératrice des Roses. Pareil, il a provoqué la grande expo qu'il y a eu à Marmottan sur les peintres de fleurs dans le 19e. C'est parti de mon livre. Et Geneviève de Gaulle, ça c'est très touchant pour moi, le Panthéon, c'est-à-dire le monument, en a fait son coup de cœur en 2019. Alors vous allez à la librairie du... Panthéon, vous savez, mon livre, je suis très fière, parce qu'il y a beaucoup de livres d'historiens. Oui. Je suis fière, mais gentiment, je veux dire, parce que...
C'est une reconnaissance aussi.
C'est
du
une
travail
reconnaissance
fait.
Du travail et de sa solidité aussi, vous voyez. Voilà, de la solidité d'un parcours, de la logique. Quand vous parlez des choses, après, vous savez de quoi vous parlez. C'est pour ça que vous en parlez cool, d'ailleurs, parce que... Moi, j'oublie les dates, tout ça ne m'intéresse pas. Les chiffres et les dates, ça noie le poisson. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Lourdes, c'est ça l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On ne mange pas ce que font les mecs au café qui refont le monde. Parce que là, il n'y a rien. Donc, j'ai rien contre eux, hein, monsieur. J'ai rien contre eux, c'est pas ça. J'ai rien contre personne, d'ailleurs. Moi, c'est le travail dans lequel je me suis engouffrée, qui mélange, je veux dire, des compétences de journaliste, une capacité d'enquête aussi. Capacité, comme chez les De Gaulle, à ouvrir les portes de tous les milieux, hein, c'est-à-dire vous parlez avec des grands patrons, comme des grands noms de tout, tout comme avec les gens, comme moi, du commun des mortels, je dirais. Et donc ça, c'est quand même aussi une passerelle qui me permet de faire ce travail.
Et alors, est-ce qu'on peut avoir une piste ? Je pense que vous allez me répondre non sur le prochain
roman.
Non,
Eliane. Bien tenté, Eliane, mais non. Je vais vous dire pourquoi non. Parce que c'est d'abord, je pense cette fois que je vais peut-être m'épargner. J'ai beaucoup travaillé, j'ai ramené énormément de documents, mais j'ai envie d'être plus légère. Vous voyez, de me faciliter, pas le travail, mais de m'octroyer des... J'ai envie de mettre plus de romanesque que d'histoire. Ça va, j'ai fait ma preuve hein, avec 13 livres. Parce que 23 ans quand même. Hein. Toujours comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais comme beaucoup de gens qui travaillent. Hein, un artisan, c'est pour ça qu'on relie souvent aux artisans. Parce que c'est vraiment un travail d'une méthodologie et d'une discipline vraiment très grande. Hein. Ça, je... Oui. Mais bon, après c'est... Moi, je suis gagnante, hein. J'ai appris plein de trucs sur le marbre, je n'aurais jamais pensé m'y intéresser. Ça ne m'intéressait pas. Moi, le marbre, c'était le truc luxueux, que je ne trouvais pas luxueux du tout, d'ailleurs, froid. Grosse erreur. Le marbre, c'est génial. quand j'ai appris que c'était la fusion, que tout fond, tout d'un coup j'ai l'image, le truc, tout fond, la montagne se soulève, et toute cette lave, enfin tout ça, sort et attrape tout ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que...
Il y a ces couleurs.
Les fameuses encrinites qui sentaient mauvais, là, on dit des siècles après, ça attrape tout, ça fait tout fondre, et puis il en sort quelque chose. C'est dingue, j'y avais jamais pensé, moi.
En tout cas, merci Bernadette pour avoir présenté votre travail et pour avoir consacré du temps à l'interview aussi. En tout cas, j'ai été très heureuse de lire en tout cas vos livres.
C'est très gentil, Eliane, et merci à vous. Je suis touchée aussi de la reconnaissance des miens. C'est très précieux. Je m'en rends compte en l'éprouvant, puisque vous m'avez invitée, que toutes ces dames, tous ces messieurs sont venus. Et ça, c'est touchant quand même, hein. C'est précieux. Voilà, merci à tous.
Merci beaucoup en tout cas.
No vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti. Porque sabes de mí. Hey.